Science alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligence which is the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir ?
Éprouvette et Belot-Côtelet.
Il est 19h et vous écoutez Science Alors en direct sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Comme toutes les 4 semaines, Cécile, Claire et moi-même sommes ravis de vous proposer une nouvelle édition de l'émission qui fait dialoguer les scientifiques de tous les domaines, depuis les mathématiques jusqu'à l'histoire. À chaque émission, un nouveau thème que nous explorons pendant une heure avec nos invités, et aujourd'hui nous nous intéressons à une problématique plus que jamais d'actualité. En octobre 2011, le nombre d'humains vivant sur la Terre a dépassé pour la première fois les 7 milliards, alors qu'il y a à peine un siècle, la population atteignait tout juste le premier milliard. Cette croissance est loin d'être linéaire, et si l'on prend du recul, l'allure quasi exponentielle de la courbe de la population humaine donne le vertige. Ainsi, dès le virage du début du XXe siècle, on a dû commencer à répondre à une problématique très concrète. Comment, alors que la surface agricole mondiale ne peut pas s'étendre en conséquence, comment nourrir toujours plus de personnes ? Voilà une question qui, pendant le siècle passé, a été explorée par bon nombre de scientifiques et continue aujourd'hui d'être un sujet de recherche actif. D'un point de vue très pragmatique, sans forcément se préoccuper consciemment des implications de leurs travaux, ces chercheurs ont tenté de répondre à la problématique de nourrir toujours plus de monde. Alors certes, puisqu'il s'est souvent agi de recherche publique, les orientations politiques ont assurément orienté les explorations du possible, mais il faut bien le reconnaître, en oubliant quelques instants les répercussions sur tout l'environnement, la question est bigrement intéressante, et tout scientifique serait assurément vite pris au jeu du défi proposé. Et progressivement, au fil du temps, quand les avancées techniques sortaient des laboratoires, on a vu le paysage évoluer, les conditions de vie des exploitants agricoles massivement changer. À coup de remembrement, de mécanisation, d'automatisation, de chimie et de biochimie, les pratiques agricoles ont vécu nombre de révolutions, parfois douces, souvent douloureuses. L'émission Science Alors d'aujourd'hui, intitulée « Y aura-t-il de la dinde à Noël ?», tente de donner quelques éléments pour comprendre comment les scientifiques se sont attelés à ce problème, comment l'évolution des pratiques et des techniques a tenté d'y répondre, et quelles sont aujourd'hui les conséquences de ces évolutions sur les conditions de vie des humains, sur les espaces qu'ils occupent, et sur l'ensemble de la fragile biosphère de notre planète. Et on va tout de suite commencer avec Claire. Bonjour Claire.
Bonjour Jean-Marie. Donc, aujourd'hui pour l'émission, nous allons avoir un débat entre Laurent Riotor, professeur de géographie, et Gérard Ledoit, professeur de biologie. Nous aurons pour alimenter ce débat l'interview que Cécile a fait chez Romain Priollet, un exploitant agricole, et nous aurons également l'intervention de Pierre Cornu. En fin d'émission, nous retrouverons Julia Giacche et Vanessa Isseri pour nous parler du Brésil et des politiques agricoles au Brésil.
Et alors, bien tout de suite, on passe à la première chronique de l'émission, qui est l'énigme mathématique.
Science alors !
Aujourd'hui, nous allons parler des nénuphars. Alors, un nénuphar, peut-être qu'il a eu beaucoup d'engrais, mais en tout cas, ce nénuphar est particulier, il double de surface chaque jour. Et au bout de 30 jours, il a recouvert la totalité de l'étang dans lequel il vit. Alors, la question du jour est de savoir, au bout de combien de jours, il recouvrirait uniquement le quart de la surface de cet étang. Voilà, je répète, hein, parce qu'il faut bien tout comprendre. Donc c'est un nénuphar qui double de volume chaque jour et qui au bout de 30 jours recouvre la totalité d'un étang. Donc au bout de combien de jours est-ce qu'il recouvre uniquement le quart de cet étang ? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous appeler au 04 73 90 52 61. Et puis sur le plateau, si vous voulez participer, ou Laurent à la réalisation, si tu trouves la réponse, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis le gagnant en fin d'émission aura le droit de venir boire un verre avec nous juste à la fin de l'émission.
Quelle chance. Alors, on va tout de suite commencer à discuter du thème principal de l'émission, puisque ici, la chronique, elle est un petit peu plus générale, disons. Et donc, en fait, la première interview qu'on va écouter, Cécile, tu nous la présentes ?
Oui, alors voilà, moi, je suis allée voir Romain Priollet. Donc, Romain est un très jeune agriculteur, en fait, qui a repris l'exploitation de ses parents pour faire de l'élevage, notamment de salaires. Alors là, Romain, donc on est dans les tables que tu as construites quand tu as repris l'exploitation.
Ben voilà, en fait, quand je me suis installé, ben ça, c'était le projet de faire un bâtiment.
En fait, tu as repris donc l'exploitation de tes parents, donc il y a 3 ans maintenant, c'est
voilà.
Ça
je me suis installé en 2009 à la sortie de mes études, de mon BTS production animale.
D'accord, et en fait, tu as décidé de construire une étable supplémentaire ?
Eh bien, en fait, ce qu'il y a, c'est que il n'y avait pas de... En bâtiment, c'était pas très bien équipé. Parce que, donc, du coup, les vaches passaient l'hiver dehors. Et
là, tu n'as que des vaches salaires, en fait.
Voilà, c'est tout des vaches salaires. Donc là, c'est un bâtiment, il y a 54 places.
En fait, la viande, fais de la vente directe ?
Oui, un petit peu de vente directe. Au niveau de la production, donc, il y a 50 vaches. Donc, en gros, il y aura 25 mâles, 25 femelles. Les 25 mâles, ils vont être vendus jeunes, broutards. Ils vont partir principalement pour l'Italie pour se faire engraisser, pour faire des babies. Donc c'est ce qui est étiqueté après dans le commerce par jeunes bovins. Et les 25 femelles, donc il y en a une partie qui va servir au renouvellement du troupeau. Et l'autre partie qu'en fait on commercialise en vente directe. Et donc on les fait tuer, fait découper, on les vend en caissette de 10 kilos. C'est livré sur tout le département à domicile. Faut trouver les clients et par contre c'est intéressant parce que du coup on a directement le consommateur en face, on a directement affaire avec le consommateur. Donc du coup ça motive à faire de la qualité, faire de...
On va sortir un peu de l'étable. Du coup, on a une super belle vue, il fait beau. Super belle vue sur la chaîne des puits. Là, on voit les jours où c'est bien dégagé, on voit le Sancy qui est enneigé.
Oui, normalement, on voit presque du Cantal jusqu'au Puy-de-Dôme.
Donc du coup, toi, tu as toujours pensé reprendre l'exploitation familiale, vivre ici, travailler ici.
Eh ben oui, ouais, en fait, j'ai toujours fait ça. Donc après, ben, mes parents avaient une petite structure, ils travaillaient tous les deux à l'extérieur. Et du coup, quand je me suis installé, donc, j'ai décidé de donc, continuer les vaches. Et en plus, j'ai un élevage de lapins de voisins qui m'ont lancé dans l'élevage de lapins. Et du coup, c'est complètement différent. Donc en gros, il y a presque deux métiers. Quoi, et le matin, on peut être avec les lapins, avec la blouse blanche. Et l'après-midi, on fait complètement autre chose. On va aux vaches et puis c'est varié. Et puis on s'ennuie jamais.
Et tu arrives à prendre des vacances ?
Oui, bien sûr, il faut. Même si, c'est pas toujours évident à organiser, mais oui.
Et donc, toi, en fait, tu as dit que BTS en production animale, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Brioude, un BTS production animale. Et avant, j'étais à Marmilla, j'ai fait un bac STAE.
Et est-ce que tu as aimé tes études ? Ça t'a apporté quelque chose ? Ou en fait, finalement, ce que tu avais appris petit avec tes parents, ça t'aurait suffi pour reprendre l'exploitation ?
Non, ça suffit pas. Et puis, on apprend forcément des choses quand on passe 8 heures par jour assis sur une chaise. Heureusement qu'on apprend des choses, sinon ça servirait à rien. Il faudrait arrêter ça tout de suite. Puis je pense qu'il faut être aussi un peu plus pointu parce que on est tellement un peu serré de tous les côtés avec des charges qui s'ajoutent de tous les côtés, des produits qui suivent pas forcément les tendances que du coup on est obligé de tout calculer au niveau gestion pour essayer vraiment d'être au top et au niveau technique et au niveau gestion, tout ça, c'est complètement différent avec ce qui se faisait avant. Quoi.
Et pour se tenir au courant, au niveau, je sais pas moi, des machines, des produits, comment est-ce que tu fais maintenant que tu es sorti de l'école ?
Bon, on arrive toujours à être informé. Il y a toujours, de toute façon, des commerciaux qui passent et qui... et qui informent plus qu'on voudrait en savoir même.
Bon, et alors, chez les Priollet, y aura-t-il de la dinde à Noël ?
Ah, la dinde à Noël ? Je pense que c'est un peu comme chez tout le monde. Il n'y aura peut-être pas forcément de la dinde, mais il y aura de la volaille.
Il y aura de la viande salaire ?
Il y aura de la viande salaire. À Noël, il faut manger du lapin aussi. Il faut manger de la viande salaire et du lapin.
Voilà, donc c'était Romain Priolet. Donc je suis allée voir donc dans son exploitation un peu au sud de Sauxillanges. Voilà, et nous étions accompagnés, vous l'aviez entendu, de ces vaches salaires qui nous faisaient un joli fond sonore. Alors Gérard Ledoit, Laurent Riotor, peut-être une réaction. Donc bon, là nous sommes allés voir un très très jeune éleveur. Bon, qui a repris cette exploitation, une exploitation familiale, qui a l'air tout à fait enthousiaste sur son métier et dont, bon, qui témoigne aussi d'un certain nombre de difficultés, mais qui a gardé quand même cette envie et cet attachement à son métier. Alors, est-ce que ça vous inspire un petit commentaire, une réaction ?
Deux réactions peut-être par rapport à cette approche, en fait, ce que nous a révélé un peu cet entretien. Je dirais c'est un peu le géographe qui résonne ici. Finalement, dans ce qu'il nous a dit, on a vu que on pouvait très bien produire de la viande en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, et puis cette viande, elle allait être expédiée à un moment donné en Italie. On reparlera de l'Italie tout à l'heure. Donc il y a des courants d'échange. Ça veut dire que par rapport un peu à la thématique générale de est-ce qu'on pourra nourrir la planète dans les années qui viennent avec l'accroissement démographique, bah, il faut toujours raisonner à différentes échelles. Est-ce qu'on peut nourrir une population sur un territoire, je dirais, que l'on peut imaginer fermé, mais aucun territoire n'est réellement fermé, donc il y a des échanges de produits alimentaires. Et puis deuxièmement, il peut y avoir sur la planète, même si la quantité d'aliments disponibles sur la totalité de la planète est suffisante normalement pour nourrir l'ensemble de la population, il peut y avoir des inégalités fortes d'une région, d'un espace à un autre. Et puis donc il y a le jeu des échanges commerciaux. Donc on voit déjà dans cet entretien que les choses sont compliquées. Puis la deuxième petite remarque, c'est qu'on parle de l'agriculture, mais c'est bien des agricultures au pluriel dont il faudrait parler. Là on a une exploitation qui est destinée à la viande, qui est une exploitation qui doit utiliser fortement les pâturages, les terrains de parcours. Donc c'est une exploitation qu'on peut qualifier de relativement extensive par rapport à d'autres formes qui sont plus intensives et qui peuvent avoir des effets plus négatifs sur l'environnement et l'écologie. On peut en reparler.
Oui, oui.
Gérard Ledoit.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'autant qu'il y a un point moi, que je tiens toujours à développer, c'est qu'il faut maintenir une biodiversité, c'est-à-dire qu'il faut maintenir une diversité au niveau de l'agriculture, aussi bien au niveau de l'élevage. On voit avec cet agriculteur, en fait, il essaye de maintenir des races qui sont très intéressantes au niveau de l'élevage, et puis de maintenir aussi cette diversité parce que dans l'avenir, on ne sait pas comment va évoluer l'environnement et l'adaptation donc, de notre agriculture à cet environnement. Et enfin, surtout, ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut savoir gérer, c'est le prélèvement que l'on fait dans la nature. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut faire, au lieu de faire de l'intensif, de faire de l'extensif de manière à éviter d'amasser trop de produits dans un même lieu et d'entraîner une pollution locale, mais aussi par ailleurs d'éviter un prélèvement trop important de races existantes. Là, j'ai lu dans Le Monde aujourd'hui qu'ils ont raisonné un bateau qui a prélevé presque 3800 tonnes de poissons, dont 2000 tonnes étaient une pêche illégale. C'est-à-dire qu'ils ont prélevé des poissons trop jeunes, ce qui entraîne donc une baisse de la diversité. C'est valable pour la mer, c'est valable pour la partie, disons, agriculture terrestre.
Et la différence, c'est que c'est de l'élevage, alors que dans l'autre cas, c'est de la chasse, entre
voilà,
guillemets.
Voilà, exactement, exactement. Donc il faut savoir gérer cet apport qu'il y a nécessaire pour l'alimentation humaine, quoi.
Alors, pour revenir à la première remarque que vous aviez faite, Laurent Riotor, pardon, vous avez précisé que il y avait éventuellement, enfin, il fallait se poser la question de la géographie mondiale, c'est-à-dire avec le fait que peut-être on produisait suffisamment, mais pas aux bons endroits. C'était ce que vous sous-entendiez d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut aussi se poser la question du type d'aliments qu'on va produire ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus coûteux en énergie pour la planète que d'autres ? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive déjà à faire rentrer en compte ?
Oui, alors c'est des questions très, très complexes. Hein. C'est vrai qu'il y a à la fois la production, on vient de parler de l'agriculture, et puis il y a la consommation. Et la consommation, ça renvoie aussi sur la planète à différents modèles de consommation. Les populations ne consomment pas les mêmes types d'aliments. Il y a des populations qui vont avoir une consommation à base forte de céréales, par exemple, que ce soit du riz ou du blé, par exemple, dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc il y a des modèles culturels d'alimentation. Et puis, il y a surtout une évolution très forte que certains scientifiques ont essayé un peu de modéliser. C'est que, on va dire, pour faire simple, plus une société connaît un développement et des processus démographiques, de transition démographique, de post-transition démographique, il y a aussi ce que certains appellent une transition alimentaire qui veut que plus les populations s'enrichissent, plus elles vont consommer notamment des protéines animales, plus elles vont consommer des produits issus de l'élevage et qui sont souvent beaucoup plus coûteux finalement sur le plan environnemental et écologique. Et puis je reviens aussi au fait que toutes les populations ne consomment pas en fonction de leurs revenus, de leurs ressources, c'est bien sûr un modèle culturel, mais ensuite il y a les revenus et les ressources et toutes les populations ne consomment pas le même type, n'ont pas la possibilité, n'ont pas la même accessibilité au même type d'aliments. Une des évolutions fondamentales par rapport à la question de nourrir la planète dans les années qui viennent, c'est surtout il y en a plusieurs, mais une des grandes questions, c'est le décollage des pays dits émergents, hein, de l'Inde, la Chine, aux pays de l'hémisphère sud et du Brésil, par exemple, où on voit à la fois des inégalités sociales qui sont souvent accrues, mais où on voit une très forte augmentation de cette consommation d'aliments d'origine animale, qui sont beaucoup plus coûteux donc à produire et qui parfois nécessitent aussi des transports hein, qui renvoient aussi à des effets en termes de consommation d'énergie, de pétrole, etc. Élevés.
Alors vous venez de dire que c'était plus coûteux. Si on réfléchit un petit peu, on se dit qu'évidemment ces animaux qu'on va manger par la suite, nous humains, eh bien il faut leur donner à manger des végétaux. Donc ça veut dire qu'on cultive d'abord des céréales pour les donner aux animaux. Est-ce que Gérard Ledoit, vous aviez une idée précise du fait, vous intéressez notamment aux pesticides, est-ce que vous avez connaissance du fait qu'on va utiliser plus de pesticides sur des végétaux qui sont destinés aux animaux ou alors sur des végétaux qui seront l'aliment des humains directement? Est-ce qu'il y a on sait ça ou pas?
Normalement, il y a les normes, hein, disons pour cela, c'est-à-dire qu'on l'utilisation de pesticides en général est encadré. Le tout, c'est que ça soit respecté, donc il faut le surveiller. D'accord. De manière à éviter que l'on utilise, parce que c'est plus confortable, hein, beaucoup plus de pesticides qu'on en a besoin, en se disant après tout, qui peut le plus peut le moins. Simplement, il faut dire, ce n'est pas pour faire peur, mais il faut dire, mais tout le monde le sait, hein, que ce n'est pas anodin d'utiliser des pesticides. C'est utile dans certains cas, mais ce n'est peut-être pas une nécessité toujours. Et ça, il faut l'avoir bien en tête parce que ces phytosanitaires peuvent avoir peuvent entraîner des risques pathologiques pour la santé humaine ou pour la santé animale ou pour l'environnement.
Alors tout à l'heure, la personne qui était interviewée disait qu'elle avait suivi un BTS. Est-ce que dans ce genre de formation, on explique aux jeunes gens qui vont devenir les agriculteurs de demain comment utiliser de manière pertinente ces différents produits chimiques?
Moi, pour ma part, disons que au niveau universitaire, on a quelques modules où on parle de ces produits, d'origine synthétique ou d'origine naturelle. Pour ma part, au niveau scientifique, au niveau des sciences biologiques, on ne fait pas d'enseignement de ce plus particulier. En revanche, je ne sais pas du tout, mais je pense que normalement dans les écoles d'ingénieurs, on devrait avoir cela.
Oui, je crois qu'il y a des évolutions dans les formations des élèves ingénieurs pour prendre en compte de nouvelles façons peut-être de produire. Alors notamment, il y a tout un mouvement, il y a eu quelques émissions récentes qui s'en sont fait écho autour de ce qu'on peut appeler l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture qui va utiliser davantage de principes écologiques hein, qui peuvent justement conduire à utiliser moins d'engrais, moins de pesticides. pesticides, avec des techniques finalement qui sont très pointues. Hein. Je pense qu'un des défis pour les formations, par rapport à 30 ou 40 ans où on a formé à la fois des agriculteurs, des techniciens au nom d'un modèle qu'on dit parfois productiviste, enfin un modèle qui visait à produire plus par unité de surface en mobilisant un certain nombre de produits parfois nécessaires mais dont tous les effets n'ont pas toujours été bien décelés. Alors la science progresse beaucoup et permet de déceler et peut-être d'inquiéter plus, mais c'est le rôle des scientifiques, hein, et il faut les laisser chercher et découvrir et faire ses avancées. Mais en tout cas, par rapport à un modèle qui conduisait à vouloir toujours produire plus, qui était le modèle de la modernité, et tous les jeunes agriculteurs notamment étaient complètement séduits, et c'est normal par ce modèle. Le fait d'utiliser moins de produits, de pesticides, d'engrais, peut apparaître comme un recul en arrière, comme une agriculture qui serait une agriculture traditionnelle du passé. Et un des défis dans les formations, c'est de montrer tout ce qu'une agriculture que l'on dit parfois écologiquement intensive, le terme est peut-être pas très, très, très joli, mais qui serait à la fois intensive mais qui respecterait davantage l'environnement, le défi c'est d'arriver à montrer que c'est quelque chose qui est très pointu, qui est très technique et qui finalement est aussi un progrès, mais une nouvelle forme de progrès par rapport à ce que l'on a connu pendant 30 ou 40 ans.
Alors justement, vous parliez de cette révolution, ce modèle productiviste. Alors Jean-Marie et moi, il y a quelques semaines, nous sommes allés voir un historien qui travaille à l'université Blaise Pascal à Clermont, donc Pierre Cornu, qui est un ruraliste et qui en fait observe justement ces scientifiques, en particulier des scientifiques de l'INRA au travail, qui a observé ces acteurs. Donc au moment de cette mise en place du modèle productiviste, et voici ce qu'il nous a dit.
On pourrait se poser la question, puisque en fait la plupart des acteurs que vous côtoyez ou que vous étudiez sont en partie, en tant que fonctionnaires, on leur a confié une mission, et pour autant eux-mêmes ont des convictions qui peut-être vont à l'encontre sur cette question de progrès justement. Comment, si vous avez déjà étudié ça, comment ils le ressentent, cette contradiction peut-être entre ce qu'on leur a confié comme tâche et ce qu'eux-mêmes ont comme conviction personnelle ?
Alors sur ce sujet, je crois que c'est justement comme ça que je peux expliquer pourquoi je suis parti faire des recherches sur l'Océanie, qui n'est pas le terrain le plus facile pour un chercheur clermontois. C'est justement pour échapper à l'idée que le chercheur serait forcément un fonctionnaire, un agent de la puissance publique. Quand on prend l'exemple de la science agronomique qui a œuvré à la révolution silencieuse, c'est-à-dire à la modernisation à marche forcée de l'agriculture française dans les années 50-60. Ces agronomes, pour le coup, avaient très nettement conscience d'être des acteurs de ce qu'ils appellent le train du progrès, d'être des agents qui cherchaient à faire rentrer le progrès dans le développement du monde rural et agricole. Mais rien n'est simple. À la fois, au début de la période, la plupart de ces chercheurs, scientifiques, ingénieurs qui font de la recherche finalisée, qui font du conseil, qui cherchent à développer de bonnes pratiques, à développer de nouvelles semences, de nouvelles variétés, de nouvelles pratiques, à rationaliser les pratiques. Ils sont naïfs et enthousiastes au début. Ce sont de jeunes gens. Et puis, ils découvrent petit à petit, parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils observent les acteurs, parce qu'ils observent les processus, parce qu'ils voient les vaches changer, parce qu'ils voient les champs de blé changer. Eh bien, soit ils vont valider ce qu'ils ont réalisé. Soit ils vont avoir, comme d'autres, des moments d'inquiétude, d'angoisse, de remise en cause et basculer dans d'autres discours. Et effectivement, ce qui est assez fascinant et compliqué dans l'histoire récente, ce que je situerai dans les années 1970-1980, c'est un moment où on observe une dissociation entre le schéma de la rationalisation, celui du progrès et l'idée de construction de valeur. Et on a toute une série d'acteurs du champ scientifique qui pensaient jusque-là que tout était unifié, qu'il y avait une seule histoire, un seul récit, qu'il était évolutionniste et que tout allait ensemble, la technique, la science, la vie sociale, la politique, même la spiritualité, qu'il y avait un courant dominant et que ça pouvait s'appeler le progrès avec un P majuscule. Et puis, l'idée de l'unité de ce grand récit se brise petit à petit. Il y a des signaux qui alertent des individus, soit des scientifiques, soit des non-scientifiques. Mais les scientifiques, ce qui les distingue, c'est qu'ils sont en travail permanent sur un objet, qu'ils ne peuvent pas s'échapper du travail quotidien sur cet objet. Et ce travail les travaille eux aussi. Et quand ils sont sur un objet en crise, comme la question agricole, et qui le voit, bien que l'impact du productivisme, c'est de détruire la biodiversité, même si on n'appelle pas encore comme ça à l'époque, c'est de détruire des ressources humaines, c'est de détruire de la diversité des productions, etc., eh bien, ils sont amenés à se poser des questions, et donc à remettre en cause leur propre foi dans l'idée de progrès avec un P majuscule.
Oui ! Science alors ! Éprouvette et velours côtelé.
Donc, vous venez d'entendre un extrait de cette interview de Pierre Cornu, hein, dans laquelle il revient justement sur cette question de la valeur de ce que les scientifiques produisent. Alors, Gérard Ledoit, vos collègues et vous-même, est-ce que vous vous interrogez justement sur ces questions?
Oui, tout à fait. Et je voudrais justement revenir sur un des points pour lequel je ne suis pas totalement d'accord. Peut-être que c'est le fait que mon côté optimiste en disant que le progrès va toujours dans le bon sens. C'est peut-être une croyance, je l'admets. Mais pour ma part, je crois que le progrès, ce n'est pas seulement créer de nouvelles molécules. Le progrès aussi, c'est de savoir comment on les utilise. C'est-à-dire comment on va gérer cela. Je veux dire, on a fait une avancée au niveau de l'agriculture. En créant des pesticides, il faut le reconnaître, ça a permis de diminuer un certain nombre de maladies qui étaient relativement graves, le mal des ardents, d'autres qui existaient. Ça a permis donc de gérer cela. En revanche, maintenant, où on a, grâce à l'amélioration des plantes, amélioration génétique, amélioration dans différents domaines, on arrive en surproduction, on arrive à gérer tout cela. Eh bien, maintenant, c'est de modifier le comportement, l'utilisation de ces produits, de retourner à des pratiques peut-être plus traditionnelles, où là seulement, moi, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est pas un recul. C'est tout simplement une adaptation. Et on est toujours dans la marche du progrès. C'est-à-dire qu'on va utiliser les moyens actuels en les adaptant pour éviter les risques qui sont apparus du fait de l'utilisation de produits, de molécules artificielles. Et c'est ça, je crois, qu'il faut voir.
On parle alors d'agriculture raisonnée, c'est ça?
Oui, alors ce terme-là, bien sûr, il a une mauvaise connotation. Pour les uns, c'est encore du productivisme. Pour les autres, c'est déjà de l'écologisme. Donc, je veux dire, en tant que scientifique, je pense que c'est la seule façon de faire. La raison, ça paraît essentiel. On est là pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, d'essayer d'apporter des solutions. Ça peut être que raisonné, c'est évident.
Donc si les gens tirent d'un côté et puis les autres de l'autre, alors finalement, en moyenne, on devrait aller dans cette direction-là.
Exactement.
Et la personne qu'on a interviewée tout de suite, là, Pierre Cornu, se posait la question du rôle de l'État par rapport à ces agents qui seraient, comme vous êtes des chercheurs de la fonction publique. Est-ce que c'est des questions qui sont importantes pour vous? Est-ce que vous avez été confronté à ça?
Oui, moi je trouve ça, c'est essentiel. C'est essentiel d'être d'être dans la fonction publique, c'est-à-dire d'être un agent de l'État, tout en étant indépendant du gouvernement qui nous dirige. C'est-à-dire qu'on est payé par l'ensemble des habitants d'un pays, l'ensemble des Français. On est mandaté par eux, on a des comptes à rendre qu'à eux, mais non pas au gouvernement, ni aux puissances économiques ou financières. Et ça, c'est fondamental si on veut aller vers des connaissances qui peuvent éventuellement gêner certains intérêts, je dirais. Et le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met au-dessus de tout. Est-ce que la santé humaine n'est pas prioritaire par rapport à tout le reste?
Et donc vous, concrètement, vous avez été confronté à cette question?
Oui, dans une vie, il y a peu de temps, oui.
Et dans le champ des sciences humaines, Laurent Riotor, est-ce que vous avez le même genre de raisonnement? Peut-être que les pressions sont moins fortes.
Oui, mais c'est vrai qu'un certain nombre de travaux peuvent se faire, bien sûr, au contact des élus politiques, au contact des représentants syndicaux agricoles, et qu'il y a, on le sait bien, des sujets qui font débat, qui sont parfois vifs et vigoureux. Et le chercheur doit toujours essayer de montrer la complexité des choses, de montrer que rien n'est complètement simple, hein, il n'y a pas un modèle unique. Je prendrai juste un exemple de travaux de doctorant qu'actuellement je suis. On peut dire qu'il y a un modèle très simple, hein, c'est les circuits courts, c'est la vente directe, c'est des produits qui seraient qui ne coûteraient pas, comme on dit, des food miles, hein, qui seraient transportés sur de faibles distances. Et
Priolé en livrant sa viande.
Tout à fait. Et alors, quand on regarde cette situation-là, qui peut être un modèle qui paraît parfait, hein, ben quand on regarde et qu'on décrypte un petit peu, j'allais dire géographiquement, les circuits qui se mettent en place, je ne sais pas notre exploitant où est-ce que sa viande bovine de salaire est ensuite commercialisée. Mais un exemple qu'une de mes doctorantes a étudié tout récemment, Marianne Chompton, à travers les marchés de vente directe de Marseille, la carte qui est dressée des producteurs, ben vous avez des producteurs qui viennent de 100, 200, 250 kilomètres, et plus qu'une proximité géographique, c'est parfois une proximité relationnelle. C'est-à-dire des agriculteurs qui se connaissent, qui adhèrent à un système de valeurs commun. On parlait beaucoup des valeurs. Donc, vous voyez, sur une dimension aussi simple que se dire que les circuits courts, finalement, on va mettre en relation des urbains qui résident dans une grande ville et c'est les régions agricoles toutes proches qui vont fournir leur alimentation, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Y compris parce que dans la périphérie des villes se posent d'autres problèmes de concurrence sur le sol, sur le foncier, qui est aussi un des grands défis. Et là où on peut rejoindre d'autres enjeux politiques sur l'urbanisation, la maîtrise de l'urbanisation. Vous voyez, donc même en sciences sociales, on peut être confronté à des débats politiques extrêmement vifs.
Vous vouliez réagir ?
Oui, juste un point. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurent. C'est pour ça que je milite, en fait, pour qu'il y ait une science citoyenne. C'est-à-dire que l'on aille vers discuter, soit dans le cadre scientifique, dans le cadre d'application de nos connaissances, soit pour le transfert des connaissances vers le monde, j'allais dire actif, on est actif aussi, mais vers le monde qui est de production, de manière à expliquer comment utiliser, quels sont les risques éventuellement associés, et continuellement de faire passer les connaissances actuelles vers les personnes qui vont utiliser ou qui vont, participer à un circuit économique.
Et les canaux de diffusion existent en l'état actuel des choses ?
Ça existe, oui, parce que nous sommes actuellement dans un programme national qui est interministériel et on est en contact on travaille en relation avec des entreprises privées tout en étant totalement indépendant, hein, je vous rassure, hein, mais on échange, on se voit à peu près tous les trimestres et je trouve ça très positif dans le sens où on a des entreprises qui, eux, travaillent de leur côté, nous, on travaille de notre côté on travaille sur les pesticides. Et on travaille de notre côté, on leur donne nos résultats, et pour l'instant, on est totalement indépendant. Il n'y a aucune limite, personne ne censure personne.
Alors, chacun d'entre vous, Gérard et Laurent, vous avez décrit un petit peu la relation avec l'environnement, disons, quotidien. Est-ce que le fait d'être en Auvergne, c'est-à-dire localisé ici, votre laboratoire de recherche soit ici, ça influence votre recherche ? Dans le sens, dans chacun de vos domaines qui sont liés finalement à une activité humaine, est-ce que les activités humaines qui sont pratiquées en Auvergne influencent votre activité de recherche ?
Je commence.
Alors Gérard Ledoit, oui, allez-y.
Je vais vous dire moi, pourquoi je suis venu en Auvergne, je ne suis pas originaire d'Auvergne. C'était il y a très longtemps, en début des années 80. Et j'avais un poste, il y avait plusieurs postes en possible en France. Je suis venu ici, je viens de la région parisienne. On a du mal à savoir où est Clermont-Ferrand de Paris, hein, déjà. Donc je suis venu et j'ai discuté avec des chercheurs ici qui m'ont convaincu mais de l'excellence de la recherche dans mon domaine, dans le domaine végétal. De choses que je n'imaginais pas. Et je pense que... Et eux le faisaient ici parce qu'il y avait peut-être un environnement spécifique. Ailleurs, il y avait d'autres environnements. Du côté végétal, il y avait une bonne interaction entre des écoles d'ingénieurs, une recherche appliquée qui était l'INRA, et puis le monde universitaire. Et puis aussi une grande coopérative agricole de la région. Donc tout ça, ça crée un dynamisme qui m'a intéressé. Voilà.
Laurent Riotor.
Oui, je dirais que c'est un peu les mêmes processus, même si je suis plus auvergnat. Mais je dirais qu'il y a deux choses. Il y a à la fois effectivement un contexte scientifique, des travaux. Enfin, on est tous l'élève de quelqu'un ou de plus d'un collectif, d'une part. On a une formation, on a des thèmes de recherche qui à un moment peuvent attirer. Enfin voilà, c'est un contexte. Et c'est vrai que sur ce plan-là, l'Auvergne avait une tradition de recherche sur l'agriculture, y compris parce que c'était une région... alors à la fois certes de plaine, mais une région de, où la moyenne montagne est fortement représentée et qui avait connu de réelles difficultés pour s'adapter à cette révolution productiviste. D'où dans les années 60, 70, voire 80, des travaux qui étaient passionnants dans cette région pour essayer de comprendre sur le plan social qu'est-ce qui se passait, quels étaient les effets de cette révolution silencieuse qu'évoquait mon collègue Pierre Cornu. Bref, il y avait à la fois des thématiques de recherche et puis un contexte qui était très favorable. Et puis la deuxième chose que j'ajouterais, c'est qu'à un moment donné, on s'inscrit dans un territoire, on y conduit des recherches, et puis peut-être que la région est aussi en quelque sorte un laboratoire, et il y a de nouvelles thématiques que l'on peut tester parce que ce laboratoire est très favorable. Avec juste un bémol, c'est que tout chercheur, à mon avis, c'est comme l'alimentation, il ne doit pas s'enfermer complètement dans son territoire et il doit s'ouvrir, il doit aller, j'ai eu l'occasion de travailler à Madagascar, de travailler dans d'autres pays méditerranéens, je dirais pour un géographe c'est un peu normal, mais aussi dans une approche un peu comparative.
Merci, c'est parfait, parce que justement, juste après avoir écouté un morceau de musique, on discutera d'élargir la réflexion avec nos deux invités féminines.
We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last.
Voilà, c'était DJEJ sur Radio Campus Clermont et nous sommes donc dans l'émission Science Alors. Et nous allons poursuivre le débat en parlant cette fois-ci du Brésil et éventuellement de l'Italie avec Giulia et Vanessa, qui sont toutes les deux chercheuses à l'UMR Métaphore à Clermont-Ferrand. Et donc actuellement, vous avez un projet de recherche au Brésil, justement sur ces zones périurbaines qu'on évoquait tout à l'heure avec Laurent Riotor. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce projet ?
Oui.
Alors, Julia.
Ah, pardon. Oui, en fait, on vient de commencer à avoir un échange de discussions avec le Brésil, parce que nous, on s'est aperçu, en fait, en travaillant sur l'agriculture urbaine et périurbaine, qu'il faut vraiment comprendre comment on peut préserver les terres agricoles autour des villes, mais aussi comment on peut reconnaître les personnes qui font de l'agriculture périurbaine et surtout urbaine, qui souvent on n'a pas le statut d'agriculteur. Donc il faut réfléchir comment les reconnaître aussi dans les politiques publiques. En fait, nous, en Europe, on a une politique agricole commune, on a une stratégie globale, mais surtout pour une agriculture professionnelle. Donc, on est en train de réfléchir comment on peut arriver à élargir un peu la stratégie, avoir une stratégie globale qui intègre aussi l'agriculture urbaine et périurbaine et les problématiques spécifiques. En plus, on s'est aperçu que cette agriculture est de plus en plus liée à la ville et aussi à d'autres secteurs, les secteurs sociaux, les secteurs de l'alimentation, de la santé, de la cohésion sociale et l'intégration. Et on s'est tourné vers le Brésil, en fait, parce qu'au Brésil, ils ont une politique publique très importante qui est arrivée un peu à intégrer différents secteurs, pas seulement l'agriculture. Et donc, on a commencé cette réflexion pour voir s'il y a des choses du Brésil et des politiques publiques là-bas que nous, on peut importer et adopter aussi pour l'Europe. Donc, c'est pour ça que...
Et juste pour préciser, où est-ce qu'on peut faire de l'agriculture dans les villes ? C'est quoi ces zones urbaines où on pourrait faire de l'agriculture ? C'est des terrains vagues ? C'est des zones qui sont peu exploitées actuellement ?
En fait, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que nous, on a besoin de faire parce qu'il faut nourrir plus du monde ou c'est la mode. Mais l'agriculture, elle commence petit à petit à prendre un poids important sur les toits, sur les friches, sur partout, les jardins collectifs. Donc l'agriculture a aussi un moyen aussi pour faire de l'intégration sociale, pour dans les quartiers où les immigrés vont mettre des jardins pour faire le rapprocher. Et donc, c'est vraiment elle a une place importante qu'il faut la reconnaître.
Est-ce que cette pratique-là, elle est plus développée au Brésil qu'en Europe?
Non, au Brésil, après, je passe aussi la parole à Vanessa, que les Brésiliens connaissent plus que moi. Mais en fait, au Brésil, la chose qui est vraiment développée, c'est plutôt une politique publique très forte qui a reconnu l'importance de l'agriculture et de l'intégration entre différents secteurs.
Et peut-être que c'est alors la mise en place de cette politique qui est plus compliquée actuellement ?
Au Brésil, c'est effectivement, ils sont dans un moment de mettre en place cette politique. Nous, pour le moment, effectivement, on n'a pas encore une politique développée sur ces côtés. C'est plutôt des politiques sectorielles qui vont soutenir certaines formes d'agriculture. Mais ils font une stratégie globale plutôt.
Est-ce que Laurent Riotor, vous avez, vous, dans votre connaissance de l'exploitation en Auvergne, des idées sur des choses similaires qui se passent par ici ? Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait d'être en Auvergne, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ?
Oui, alors les formes d'agriculture urbaine, bien sûr, elles sont souvent liées à la taille des villes. Alors,
urbaine, c'est le mot, quoi.
Oui, cette agriculture urbaine, bien sûr, elle va être plus marquée à la périphérie des grandes métropoles mondiales. Mais ça ne signifie pas que dans une métropole régionale comme Clermont-Ferrand, qu'autour d'un certain nombre de villes moyennes, également, on ne va pas voir apparaître les formes qui ont été évoquées de jardins collectifs, de terres de maraîchage destinées à la consommation de proximité. C'est des choses qui existent. Mais effectivement, ça renvoie à des enjeux très très forts de maîtrise du foncier par les politiques publiques, par les politiques de gestion du foncier. Alors on a un certain nombre d'outils, mais ça n'est pas toujours suffisant. On va dire que dans une métropole comme celle de Paris et l'Île-de-France, ça fait longtemps que l'on mobilise un certain nombre d'outils pour maîtriser, effectivement, limiter l'urbanisation dans certaines zones et préserver cette agriculture urbaine. Par ailleurs, on peut aussi noter que au-delà finalement de la présence de terres agricoles, c'est aussi le fait que les villes s'étendent de façon souvent mal maîtrisée et parfois au-delà de plusieurs dizaines de kilomètres. Et finalement, l'enjeu d'une agriculture urbaine, c'est aussi l'enjeu d'une agriculture périurbaine pour lequel peut-être en Auvergne, on n'a pas toujours pris conscience parce qu'on avait beaucoup d'espace. Hein. Historiquement, les villes pouvaient s'étendre. On n'a pas toujours pris conscience que l'on avait de vrais enjeux autour de ces espaces périurbains. Ils ressortent aujourd'hui et de façon très positive autour, par exemple, de la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO de la chaîne des Puys. Ben, dans cette chaîne des Puys, sur cette faille de Limagne, il y a de vrais enjeux de maîtrise du foncier, de protection à la fois des espaces agricoles, mais aussi des espaces forestiers, par exemple.
D'accord. Donc là, on vient de comprendre qu'il y a une certaine manière, une certaine similarité, un écho entre ce qui se passe au Brésil, finalement, et puis ce qui se passe en Auvergne. Mais au Brésil, il y a un autre phénomène qu'on observe, et peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots, c'est le mouvement des sans-terres.
Alors, Vanessa.
Le mouvement sans-terres au Brésil, il est né en 1980, et pour revendiquer les terres perdues par l'inondation après la construction des barrages hydroélectriques. Ils défendent la réforme agraire, le travail rural coopératif et une production bio. Mais comme grande part des représentants politiques au Brésil sont aussi grands propriétaires, ils vont toujours défendre le développement d'actions qui concentrent la terre dans la main de peu, ils vont déforester.
Et alors vous êtes étudiante en géographie.
Oui.
Et donc vous êtes brésilienne. Alors qu'est-ce qui amène une étudiante en géographie qui s'intéresse au mouvement des sans-terres au Brésil à étudier à Clermont-Ferrand, peut-être
Je viens ici faire les masters géographie et les stages aussi. J'ai commencé à travailler sur l'agriculture déjà au Brésil parce que je viens d'un état très agricole et c'est pour ça que je m'intéresse à la réalité des espaces là-bas et des enjeux.
Pour faire une comparaison.
Ah oui, je viens faire une comparaison entre la vie de Cianorte au Paraná et Clermont-Ferrand, dans la production périurbaine alimentaire, la relation de consommateur et producteur, c'est ça.
Et alors, il y a une grosse différence entre les deux. Est-ce que le quotidien est diamétralement opposé? C'est très, très différent entre ce qui se passe au Brésil et puis ce qui se passe ici
Spécialement de Cianorte, qui c'est l'avis de sujet de recherche. Et on a déjà vu qu'il y a une production périurbaine peut-être plus proche qu'ici parce que là-bas, il y a une ceinture verte de production. Et je pense qu'ici, clairement, peut-être non, mais je vais commencer à faire le travail de terrain après. Et peut-être au fin de mars, je peux le dire meilleur. Mais là, dans la place des commercialisations sont différentes parce que là seulement le marché c'est la place des commercialisations directes entre producteurs et consommateurs, mais ici je pense qu'il y a une autre forme comme les AMAP qui ont été là, c'est une nouvelle chose pour moi.
D'accord, mais peut-être qu'on pourra exporter les AMAP au Brésil
prochainement. Peut-être.
On va approcher de la fin de cette discussion. Est-ce que, messieurs, vous vouliez réagir une dernière fois avant qu'on conclue ?
Juste rajouter une petite chose par rapport à ce défi alimentaire hein, de la planète. Vous avez commencé par l'évoquer. Bon, ce défi alimentaire, pour essayer de lui apporter une réponse, il est clair que ça doit passer par différentes voies. Et on en a évoqué différentes. À un moment, il y a la voie de l'augmentation nécessaire de la production agricole. Et là, il y a des défis énormes pour que cette augmentation de la production, elle respecte la biodiversité et une qualité de notre environnement et la santé des populations. Et c'est un vrai défi. Et les chercheurs sont actifs pour essayer de mieux comprendre tous les processus à l'œuvre. Augmenter la production, ça peut être aussi conquérir de nouvelles terres, mais avec quel coût pour la société, avec quel coût pour l'environnement, et parfois quel coût aussi pour, on n'en a pas trop parlé, mais c'est tous les défis aujourd'hui de grandes puissances émergentes qui acquièrent des terres un peu partout sur la planète et qui enlèvent finalement aussi une indépendance alimentaire pour un certain nombre de pays. Et puis au-delà de l'augmentation de la production, du gain de nouvelles terres, il est clair que on a tous, de façon citoyenne, à réfléchir à la répartition. La répartition des ressources, des terres agricoles, de l'eau, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a un vrai défi sur l'eau. La répartition, et l'exemple du Brésil, un très bon exemple des inégalités sociales, très très fortes. Hein, et la question de l'alimentation, c'est aussi une question sociale et politique. Et puis, dernier point, il y a aussi nos modèles alimentaires, nos modèles de consommation, avec des centaines de millions de personnes qui sont suralimentées dans les pays riches, finalement avec peut-être des formes de gaspillage et des nouvelles formes de circuits courts à inventer ou à réinventer.
Merci beaucoup pour cette conclusion, peut-être
Gérard.
Oui, non, moi je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que le problème principal, c'est le niveau de vie de chacun des individus dans un pays et le niveau de richesse. C'est-à-dire que quand on rendra la richesse d'un pays aux habitants du pays, peut-être qu'on améliorera les choses au niveau de l'ensemble de l'agriculture et de l'alimentation. Quoi.
Citoyens, levez-vous. Merci pour cette discussion. Merci à vous tous. On va tout de suite poursuivre l'émission par la chronique, à du moins la réponse à l'énigme mathématique.
Science alors !
Alors Claire, dis-nous.
Alors, la réponse est... Alors, est-ce qu'on a eu des auditeurs qui nous ont appelés ? Ou est-ce que quelqu'un sur le plateau a la réponse à cette énigme ? Donc, je rappelle l'énigme, on avait un nénuphar boosté aux engrais qui double de surface chaque jour. Et donc, au bout de 30 jours, il recouvre la totalité de l'étang. Au bout de combien de jours est-ce qu'il va recouvrir le quart seulement de la surface de cet étang ? Donc, sachant qu'il double... Non, personne ?
Laurent, peut-être.
Laurent ?
Non, et puis personne n'a appelé. Donc,
Très bien, allons-y. Alors, la réponse est 28 jours. Pourquoi ? Parce que le 30e jour, donc, il représente la totalité de la surface de cet étang. Donc, la veille, il représentait seulement la moitié de cette surface, puisqu'il double chaque jour. Donc la veille, on était le 29e jour, et l'avant-veille, il représentait le quart, puisque en doublant de surface, il va arriver le lendemain à représenter seulement la moitié de la surface, et puis le surlendemain à représenter la totalité de la surface. Donc la réponse est donc le 28e jour. Voilà, donc nous irons boire un verre entre nous.
Ça, personne n'a trouvé. Zut alors. Enfin, peut-être, bon, c'est bien aussi. On passe à l'agenda local. Avec Cécile.
Oui, alors, au niveau des manifestations scientifiques qui vont se dérouler, bon, là, c'est un peu la trêve des confiseurs, hein, pour tout dire. Donc, je signale quand même que jeudi 20, il y a une conférence organisée par les Amis du Temps des Cerises, donc à l'amphi 2 de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines, conférence donc d'Éric Azon. Donc sur un état entre le Jourdain et donc la mer Rouge, et puis donc un petit peu plus tard dans le cadre des conférences organisées par la des conférences façon de penser, par la MSH, à 18h30 le mercredi 16 janvier. Donc il y aura une conférence de Bernard Mesuré, qui concerne l'Europe, quelle offre de santé. Donc ça se passe à 20h30 à la MSH le 16 janvier. Voilà. Et puis encore plus tard, je signale un film au Rio, suivi d'une conférence dans le cadre des cycles de projection et de conférences qui s'appelle La folie à l'image. Donc le film Chronique d'un asile de Jean-Pierre Védel sera projeté le 14 janvier à 20h30. Donc le 14 janvier, c'est aussi le jour de notre prochaine émission. Donc de 19h à 20h, vous écoutez Radio Campus. À 20h30, vous allez au Rio.
Parfait programme pour une soirée. Effectivement, on se retrouvera donc maintenant dans un mois, enfin du moins 4 semaines, le 14 janvier, comme tu viens de le dire, Cécile. Et cette fois-ci, le thème de l'émission, ce sera l'homme et la machine. On s'interrogera sur la manière dont l'homme se rapproche de la machine quand la machine fait le chemin inverse. Est-ce qu'on va se retrouver au milieu? Je ne sais pas. Je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions sur le site internet sciencealors.fr. Vous pourrez notamment commenter, puisqu'on vient de mettre en place le moyen de pouvoir commenter et de continuer à échanger sur les sujets des différentes émissions. Alors aujourd'hui, la musique avait été proposée par Claire, c'était Freedom Ring avec DJ Eji, c'est ça, voilà. On a entendu les interviews de Pierre Cornu et de Romain Priolet qui sont venus alimenter les discussions que nous avons eues sur le plateau. Alors justement, sur le plateau, nous avions Gérard Ledoix, Laurent Riotor, ainsi que Julia Giacché et puis Vanessa Isseri. Je vous remercie tous d'être venus et d'avoir accepté si gentiment de participer à la discussion. Aujourd'hui, à la technique et à la réalisation, c'était Laurent. Nous étions trois à l'animation, Cécile, Claire et moi-même. Et puis, restez à l'écoute de Radio Campus, parce que juste après, c'est Génération Manga.
Science alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent with its the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Éprouvette et velocotelée.